Mais Stéphanie, je demande que nous soyons tous conscients ce soir que le Seigneur nous enveloppe de son merveilleux regard d'amour et que cet amour puisse réellement pénétrer nos cœurs et nous apporter cette chaleur divine dont peut-être même vos corps ont besoin ce soir. Qu'il est puissant pour réchauffer vos cœurs, ces cœurs qui sont encore dans ces corps de chair, comme nous l'avons entendu. Et bien aimé, je suis bien conscient que le thème qui a annoncé cette conférence a pu paraître à plusieurs quelque peu négatif. Les ennemis et du chrétien. Mais je voudrais tout de suite vous dire ce soir que dans mon cœur, j'ai davantage le désir de vous parler de celui qui a triomphé de tous nos ennemis que de vous dépeindre longuement les différents ennemis qui nous attaquent. Certes, ils sont nombreux. Mais en Jésus-Christ, nous avons la certitude que nous pouvons avoir la victoire, pas seulement quelques victoires, mais la victoire. Et que le Seigneur Jésus peut nous conduire aussi, non pas occasionnellement, mais toujours en triomphe, manifestant la connaissance de son nom en tout lieu. Alors, ce que j'ai demandé instamment à Dieu, c'est que réellement, dès cette soirée, nous puissions être à l'écoute de sa parole et recevoir individuellement ce que le Seigneur veut nous dire dans cette soirée du 1er septembre 1984. Dieu a un destin pour chacune de vos vies. Il vous connaît tous par vos noms. Il sait tout de votre existence, de vos préoccupations personnelles, de vos soucis, de vos difficultés, de vos chutes aussi. Et ce que nous voudrions tout de suite souligner, c'est que tel que vous êtes maintenant, Dieu vous aime. Et tout l'accepter. Il vous aime d'un amour infini. Et la preuve qu'il vous aime, c'est qu'il a donné son fils, son unique, et qui est mort sur la croix du calvaire. Et ça, c'est un fait qui ne peut pas être défait. Façon de vous accuser, car il ne demande qu'à nous cribler, et il voudrait nous rendre malheureux, surtout si nous sommes sauvés. C'est qu'il ne peut pas nous perdre pour l'éternité, il voudrait nous rendre malheureux dans la vie. Plus malheureux que quand nous étions dans le monde, parce qu'encore dans le monde, on vivait, soi-disant. Mais maintenant qu'on est au Seigneur, pour plusieurs, c'est presque plus une vie. Ça devient vraiment insupportable, parce que les chutes, toutes ces nos chutes, et puis le doute commence à nous pénétrer, et on se dit, mais c'est pas vrai, je me suis illusionné, je ne suis pas vraiment sauvé. Et on est plus malheureux qu'avant notre conversion. Combien bien-aimés, combien mon cœur était saisi ce soir, quand j'ai entendu que la plupart parmi vous étaient des convertis depuis 5 ans, je crois. Eh bien, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu cela ce soir. On a chanté un premier cantique, vous vous souvenez? Dans mon âme, un beau soleil brille, donc vous devriez être chanté. Dans mon âme, un beau soleil brille. Savez-vous que j'ai chanté pour la première fois quand ce soleil a brillé dans mon âme, il y a 53 ans. Oui, il y a 53 ans, j'ai appris ce cantique parce que c'était vrai, parce que c'est devenu vrai. Ce soleil s'était levé dans mon âme. Puis ce qui m'a frappé aussi, c'est que le deuxième cantique, c'est encore un cantique que j'ai chanté pour la première fois, il y a 53 ans. C'était un bout de chemin. 53 ans, il m'a rencontré. 53 ans, il m'a fait grâce. Et puis, il est encore là. Malgré les ennemis du chrétien, et ils sont nombreux, hein, et ils sont puissants. Notre Père vient de nous souligner ce qu'est la chair, ce qui fait que le chrétien est charnel. Et nous nous disons, mais comme nous le serons toujours charnel, il n'y a pas d'issue. Si nous voudrions que dans ces rencontres, le Seigneur vous apporte une certitude qui s'emparera de vos cœurs et qui vous donnera dès ce soir, malgré ce que vous ressentez peut-être, cette tristesse en vous, qui vous donne dès ce soir cette joie de savoir que le Seigneur est vainqueur et qu'il sera vainqueur en vous. Nous allons lire tout de suite la parole pour l'écouter très simplement. Mais en l'ouvrant, nous voulons encore évoquer le nom du Seigneur. Ô notre Dieu, nous ne pouvons pas ouvrir ta parole sans te demander d'ouvrir aussi nos yeux, afin que nous puissions voir les merveilles de ta loi. Nous ne pouvons aussi que te demander d'ouvrir nos cœurs, pour que ces cœurs puissent recevoir avec douceur cette parole. Et nous ne pouvons aussi que te demander une chose, c'est que cette parole habitant désormais dans nos cœurs, et n'étant plus simplement dans les couvertures de la Bible, cette parole soit une parole de vie, et qu'elle influence notre comportement dans notre vie terrestre. Pour le temps qui nous reste à passer ici-bas, Seigneur Jésus, nous voudrions devenir réellement tes disciples, être réellement pour toi, dans cette province de Québec, tes témoins. Des jeunes gens, des jeunes filles qui se sont entièrement livrés à leur sauveur, qui ne s'appartiennent plus, mais qui appartiennent à celui qui pour les morts a été ressuscité, afin que les gens du monde voient la différence qu'il y a entre un chrétien et un non-chrétien, entre un homme qui s'est laissé saisir et qui laisse désormais le Seigneur accomplir en lui toute sa volonté. C'est la grâce que nous te demandons ce soir. Nous qui voudrions tant te servir, donne-nous de comprendre que te servir, ce n'est pas faire quelque chose pour toi, mais nous laisser faire. Comme Marie pouvait le dire devant l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Qu'il y ait ce soir des âmes qui puissent dire dès maintenant qu'il nous soit fait selon sa parole. Amen. Mes amis, ce soir nous ouvrons la parole dans le livre de l'Exode, au chapitre 23. Ce ne sera qu'une introduction, mais nous voudrions que cette introduction nous apporte quelque chose de positif. Verset 20 du chapitre 23 de l'Exode. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et demandez-vous déjà, qu'est-ce que le Seigneur peut me dire par tes paroles? Qu'est-ce que je comprends de personnel pour moi dans ces paroles? Parce que c'est ça qui est important. C'est pas ce que moi je peux vous dire. qui doit vous rester. Mais ce que le Seigneur veut vous dire, simplement parce que vous lisez cette parole, c'est que vous écoutez avec l'oreille de votre cœur. Est-ce que ça vous dit quelque chose, là? Voici, j'envoie devant toi pour te protéger en chemin un ange et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Est-ce que vous allez à quelque part, mes amis? Est-ce que vous avez une direction dans votre vie? Est-ce que vous savez qu'il y a un lieu qui vous est préparé? Oh oui. J'ai acheté ma concession au cimetière. C'est tranquille. C'est tranquille. Non, c'est pas ça. Il y a un lieu qui vous est préparé, frères et sœurs. Est-ce que vous le savez? Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Et le Seigneur Jésus nous l'a dit, et qu'il allait nous préparer une place. Est-ce que vous croyez qu'un jour vous serez à ce lieu-là? Là où il est? Jésus, quand il priait à Gethsémané, pouvait dire, Père, je veux que tant à ceux que tu m'as donné, que là, au moins je suis, qu'ils y soient aussi avec moi. Un jour nous serons avec lui. Et à cause de quoi? Parce que nous aurons été des pasteurs spirituels, parce que nous aurons pu nous tenir debout et que nous aurons marché fidèlement jusqu'au bout. Non, parce que lui aura envoyé son ange devant nous. C'est lui qui marche pour nous protéger, parce que justement nous sommes en danger dans le chemin. Mais qui va être notre protection? Est-ce que nous allons la trouver en nous-mêmes? C'est lui qui va nous protéger dans le chemin. Et c'est lui qui va te faire arriver. Pourquoi est-ce que je suis sûr d'arriver? Parce que je crois en moi? Non, parce que je crois en lui. Et parce que je crois que ce que le Seigneur a fait est quelque chose de tellement grand, de tellement valable aux yeux de ton Père, que ce que j'ai fait ne peut pas être défait. C'est vrai ou c'est faux? Ce que Jésus a fait pour vous, est-ce que ça peut être défait? Non! Il est mort sur la croix. Et Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous, en que lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort. Et il n'est pas mort pour rien, il est mort pour nos péchés. Il est mort parce que nous ne pouvions pas nous en tirer nous-mêmes. Ce n'est pas par ses paroles, ce n'est pas par ton exemple que nous sommes sauvés. C'est par quoi? Par sa mort. Et je crois que cela retentira plusieurs fois dans ces journées. Et que nous saisirons que ce n'est pas par sa vie simplement que le Seigneur nous a sauvés. Sa vie ne pouvait pas nous sauver. J'espère que nous allons nous en souvenir demain matin et que ce soir ce sera déjà une séparation. À nous souvenir de quoi demain matin? De la mort du Seigneur. Parce que c'est par sa mort seule que nous avons été sauvés. Et c'est par cette mort que nous sommes aussi libérés et délivrés de toute la puissance des ennemis que nous pouvons rencontrer. Oui, nous allons vers le lieu où il nous a préparé. Il nous a préparé cette image devant nous. Alors. Tiens-toi sur tes gardes, en sa présence. Alors là, c'est un problème. Puisque c'est vrai, s'il est là, s'il marche devant nous, cet ange, soyez toujours conscients de la présence divine à vos côtés. Et qu'est-ce que Jésus disait quand il invitait les foules fatiguées et chargées de venir à lui? Il demandait quoi? De prendre son loup. Prenez mon loup sur vous. Alors, vous avez déjà vu deux bœufs qui font tout le jour. Ils marchent ensemble. De sorte que si réellement nous sommes au Seigneur et que nous avons répondu à son appel, et que nous marchons tous 100 jours, nous sommes à côté de qui? À côté du Seigneur. Et qui est-ce qui dirige la marche? Le Seigneur. Et sa présence, elle est toujours là. Oh, que nous puissions saisir cela comme une vérité quotidienne. Nous sommes sous son joug. un joug qui ne nous laisse pas et qui nous porte autant plus que nous ne le portons. Et puis alors, tout ton joug, si c'est lui qui est le maître, nous avons à essayer de le devancer. Donc, c'est là que ça pourrait nous faire mal. Marchons au pas du Seigneur. Marchons au pas du Seigneur. Nous sommes suspendus. Regarde à toi en ta présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. C'est là les questions qui pourraient nous faire mal. C'est quand nous résistons, je le dis très bien pour moi-même. Mais si je ne lui résiste pas, oh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les souffrances, mais dans les épreuves, quand je ne lui résiste pas, j'étouffe. Et ça vaut la peine de passer par les épreuves pour connaître les consolations que lui nous donne dans les épreuves. Consolations spéciales, consolations particulières, consolations qui ne nous blessent jamais. Et il nous donne ces consolations en vue de quoi? Pour que nous soyons capables de consoler ensuite ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la consolation dont nous avons été consolés par qui? Par les amis de Job? Non, mais par le Seigneur. C'est lui qui nous a consolés. Alors que nous étions dans la détresse, dans les larmes, alors que nous étions complètement défaillants, il nous a fait sentir son amour. Alors que justement, Satan nous accusait en nous disant, si tu passes par cette épreuve, c'est que Dieu ne veut plus que tu prêches, c'est que Dieu ne veut plus que tu me serves, parce que tu es un mauvais serviteur, et puis il nous rappelle tous les manquements de notre vie. Et il y en a des manquements dans notre vie. Ah, cher ami, la chair ne s'améliore pas. Et plus le chrétien avance dans la vie spirituelle, plus il se voit noir, mais plus il voit la grâce lumineuse. Et il ne vit plus que de cette grâce. Il n'abuse pas de la grâce, mais il vit vraiment dans tous les domaines que la grâce du Seigneur. Pourquoi sa vie devient une lourde. Une lourde au Seigneur, même au prince de tes larmes. Oh, ne lui résistez pas. Méditez cette parole, repassez-la dans votre cœur. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ah, mes amis, j'étais heureux, hein, notre frère voulait terminer le psaume 51. Il faut quand même pas prendre le Seigneur pour ce qu'il n'est pas. Moi, je suis ce que je suis, mais quand je vois le Seigneur, oh. Puis-je, Seigneur, te ressembler davantage, mais c'est pas lui qui me ressemble. Moi, je suis tellement méchant, là-dessus. Quand je me regarde, quand je me considère, je ne puis que me désespérer. Mais quand je le connais, quand j'apprends à le connaître, et que j'apprends qu'il est là dans la fondation du monde, qu'il était décidé, que j'étais prédestiné à la gloire éternelle, et que j'arriverai au lieu qu'il a préparé pour moi, alors, mon cœur, reprends courage, mais toute la gloire, nous la donnons au Seigneur. Nous ne parlons pas de nos années de fidélité ou de nos travaux pour le Seigneur ou du nombre de conversions que nous aurions pu avoir parce que nous convertissons personne. Ne vous figurez pas que vous vous avez converti là. C'est Dieu qui sauve. Et quand on est un peu conscient de ce que c'est que le travail de Dieu dans une âme, on est bien d'accord qu'il faut toute la puissance. Et quand même une âme se serait donnée à vous, alors que vous avez prêché l'évangile, et que ce serait dans cette soirée-là que cette âme a dit, comme on l'entend, pris la décision pour le Seigneur, soyez-le bien, votre prédication peut-être a été la dernière goutte, ça fait déborder la coupe, mais il y en a d'autres avant vous qui avez rempli la coupe. Il y avait d'autres serviteurs qui ont travaillé avant vous. Et si vous récoltez, peut-être là où vous n'avez jamais semé. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de nous approprier les âmes. Les âmes sont au Seigneur. Celui qui sème, il sème la semence que le Seigneur lui donne. Celui qui moissonne, il moissonne aussi par la force que Dieu lui fournit. de qui est-ce qui a fait germer la semence, c'est Dieu. Et cela, il faut le garder dans notre cœur. Alors il n'y a plus ce que notre frère disait, c'est jalousie en service à Dieu. C'est jalousie en celui qui s'aime et celui qui moissonne. Vous connaissez quand même la parole, et j'espère que vous êtes formés dans vos pensées par cette parole. Voilà un Jérémie qui nous dit que pendant 23 ans, il s'est levé de bonne heure pour enseigner les gens de Jérusalem. Et quel est le résultat de son travail? Bien. Voilà un âgé, le prophète, dont vous connaissez le psalmiste, qui nous dit que lui, en 23 jours, après avoir reçu la prédication du Seigneur, il y a un réveil merveilleux qui s'opère parmi le peuple remonté de la captivité, qui était plus fidèle. Jérémie ou âgé? Vous voulez regarder au prix visible, vous pourriez dire que c'est âgé? Non, Jérémie était si fidèle au Seigneur que quand le Seigneur était sur la terre, il faisait penser à qui, Seigneur? À Jérémie. Et lui disait, il y en a qui se prennent pour Jérémie. Parce que justement, Jérémie avait été si près du cœur de Dieu qu'il portait déjà en lui les caractères du Seigneur qui allait venir. Mais c'était quand même un peu de temps. Alors, ce n'est pas les résultats qui doivent nous maintenir en forme. Si je suis appelé dans un temps comme celui de Jérémie et avec la vocation de Jérémie, ce qui m'est demandé, c'est d'être fidèle, même si je ne vois rien. Jérémie, il aurait pu se pendre s'il voulait regarder au bout. Mais si je suis un âgé, eh bien, je ne me gonflerai pas parce qu'il y a un résultat visible dans la prédication. Et je bénirai le Seigneur parce que c'est un autre temps. Le temps qui est venu où le Seigneur va agir et va réveiller son peuple. Mais qui est-ce qui réveille ce peuple? C'est le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Donc, revenons bien au temps. Et souvenons-nous que dans la présence du Seigneur, nous devons avoir horreur du péché, parce que le Seigneur, qui est mort pour nos péchés, ne passe pas sur nos péchés. Certes, depuis notre conversion, nous péchons encore, mais il y a des conséquences, de nouvelles conséquences, que nous devons supporter bien souvent jusqu'à la fin de nos jours, et c'est de cela qu'il ne devrait plus être. Il y a des souffrances que vous pourriez vous épargner, tout en étant encore dans le monde, où règnent toutes les convoitises. Il n'est pas nécessaire que nous succombions à toutes ces convoitises, même si Satan, le tentateur, emploie ces convoitises pour nous mettre et nous acculer à la chute, et si possible après, au désespoir et à cette pensée que ceux qui prêchent qu'on peut perdre son salut ont raison. Non, nous croyons à un salut total et à un salut parfait. Mais nous croyons aussi à la sainteté de notre Seigneur et qu'il y a une discipline et qu'il châtie le mal. Il n'y a plus de colère pour le chrétien, car toute la colère a été déversé sur le Seigneur Jésus. Il était en colère contre nous, notre Dieu, trois fois saint. Mais sa colère, nous dit l'Écriture, s'est détournée. Et toute la colère est tombée sur le Seigneur. De sorte que, pour ceux qui sont au Seigneur, il n'y a plus de colère. Mais il y a encore la difficulté. Et quand le Seigneur châtie ses enfants, justement, parce qu'il ne veut rien laisser passer à ceux qui sont vraiment les siens, c'est encore une preuve de son âme. Mais ce n'est pas ce qu'il voudrait. Parce que quand le Seigneur va chasser, il dit que c'est une œuvre étrange pour lui. C'est un travail inaccoutumé. Je n'ai pas le père souhaitable. Comme on disait autrefois à l'époque. Non, Dieu est un père au cœur de mère. Il a une tendresse infinie. Et ne dites pas que je sors de la Bible quand je dis que Dieu est un père au cœur de mère. Parce qu'il est dit comme quelqu'un que sa mère comprenne. Ainsi, vous consolerez les 68 et vous serez consolés. Mais quand le Seigneur doit nous châtier, c'est encore pour notre bien, pour nous faire participer à sa sainteté. Mais souvenons-nous, son nom est en lui. Alors ça va nous préparer, ça dédaigne un peu le terrain pour ce que nous allons voir dans la suite. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais ce que je te dirai, et comment savoir ce qu'il va nous dire? Est-ce que Dieu parle encore? Ou dans sa parole. Et quand on sait l'écouter, j'espère bien que vous n'êtes pas comme cette personne que j'ai vue dans l'avion hier soir, qui avait même ses écouteurs et sa petite cassette. Dans ses oreilles, on écoute plus tard. Même dans l'avion, on n'entend plus rien comme ça. Et puis on les voit passer dans le chemin comme ça. Et puis après, vous êtes sourds avant l'âge. Vous dites, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est devenu beau? Imbécile que nous sommes! Français, ça. Nous choisissons nous-mêmes nos misères, nos mots. Et c'est tellement temps en temps. Tu sais même peut-être le message évangélique que je dis. Mais c'était l'expérience. Il fallait se servir. J'entends toujours ce que les hommes disent, même les chrétiens. Entendre ce que le Seigneur dit. C'est trop de savoir. Je serai, c'est ça que je voudrais vous laisser, l'ennemi de ses ennemis. Vous ne pouvez pas se rouler. Je serai l'ennemi de ses ennemis. Alors, lui les connaît bien mieux que nous, même si nous allons en énumérer quelques-uns. Je serai l'ennemi de ses ennemis. Où parlez-vous de ces paroles? Que voulez-vous? Ce soir, vous dites, c'est pour moi, ça. J'ai des ennemis, et vous les connaissez peut-être, hein, déjà, plusieurs de vos ennemis. Parce que même s'ils n'en sont que quelques-uns, derrière eux, ils sont chefs de toute une armée. Hein, il y en a d'autres qui suivent, hein. Il y a des chefs. Alors, je serai l'ennemi de ses ennemis. Et je serai l'adversaire de ses adversaires. Vous ne pouvez pas être consolant. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Ces paroles qui sont éprouvées, disait Jérémie, je les ai mangées. Mangez ces paroles. Et vous verrez combien cela fortifiera votre esprit, votre âme, et j'irai plus loin aussi, votre corps. Car il est dit que si ces paroles sont en nous, c'est même la santé de notre corps. Et je puis témoigner que le Seigneur m'a souvent remis simplement par une de ces paroles. Ces paroles qui sont esprits et qui sont vives et qui deviennent la santé de notre corps. Alors que les jalousies font quoi? La pourriture de nos os. Les gens jaloux, eh bien leurs os deviennent ça. Qu'ils sont en train de pourrir. La jalousie, l'envie, dit l'écriture, c'est une pourriture qui va jusque dans les os. C'est les proverbes qui nous disent. On devrait les connaître par cœur. Ça nous donnerait du bon sens. On dirait, non, c'est pas juste des jaloux. C'est bien. Moi, je suis jamais. C'est ça, c'est ma chair. Eh bien, je m'en juge. Je n'admets pas cela. Je l'ai pris la tête. On veut faire filmer l'enfant devant ma jalousie. Oui, nous sommes des adorateurs d'idoles à la jalousie. Mon ange marchera devant toi. Il te conduira chez toi. Vous me direz, oui, mais alors, vous allez dans l'Ancien Testament. La dernière fois que j'ai prêché la fête de Montréal, quelqu'un, j'ai vu saluer le monde à la sortie. Et c'était une jeune femme. Ils sont là, non? Je me suis demandé pourquoi. J'allais déjà une famille. Alors, on passe tout le monde. J'avais un peu trop oublié ça. Et après, Dieu l'a mangé. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas tendu la main. C'est parce que vous avez vu dans l'Ancien Testament. Je ne peux pas vous porter l'Ancien Testament. C'est ça.
Porque se estão na igreja, eles vão ver. Respeito sozinho vocês. C'est pas que c'est beau dans cet testament. C'est pas que c'est beau dans cet testament. Est-ce que ces versets que nous lisons, ça ne va pas vous donner le goût de lire l'Ancien Testament? Et de ne plus dire, oh, c'est l'histoire d'Israël, d'un autre peuple, d'un autre âge, on en est tanné de cela. Comme s'ils la connaissaient si bien cette histoire. Histoire sainte. Rien du passé. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent l'histoire d'Israël, vraiment? Goethe disait, l'histoire d'Israël, c'est notre histoire. Et c'était quand même le grand poète allemand. L'histoire d'Israël, c'est notre histoire. Et quand vous lisez le contexte de ces passages, qu'est-ce que vous savez? Israël était autrefois esclave. Où? En Égypte. Et que là, en Égypte, ils étaient asservis à qui? Au Pharaon. Et il y a des cycles dans l'Ancien Testament. Et nous savons très bien que l'Égypte peut représenter le monde où nous sommes en quelque sorte esclaves. Où, évidemment, on a la nourriture, on a le vêtement, enfin, on a une espèce de sécurité charnelle, plus ou moins, mais aussi tous les coups de bâton des Égyptiens. Et puis, le pharaon, c'est une image aussi de Satan, ce maître dur qui ne veut pas nous laisser partir, qui ne veut pas, justement, nous libérer, nous donner notre libération. Et voilà, pourtant, j'ai suscité Moïse, et ce peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte. Le pharaon qui les dominait a été vaincu, ils l'ont vu s'enfoncer dans les eaux magnifiques. Lisez le chapitre 15 du livre de l'Exode. Le pharaon vaincu, mais voilà, ils sont dans le désert, et puis Dieu leur a promis qu'ils arriveraient au pays de Canaan. C'est là qu'ils doivent arriver. Notre Canaan, c'est quoi? C'est le ciel, c'est la maison du Père. Mais maintenant, nous sommes où? Dans le désert. Nous sommes vraiment dans le désert. C'est pas facile. Il n'y a pas grand-chose dans le désert. Mais pourtant, si vous avez le Seigneur avec vous, dans votre désert d'aujourd'hui, 1er septembre 1984, dans ce désert qui est le vôtre, l'ange va marcher dans vous. Oui, mais vous dites, mais demain, d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qu'il y aura? On a tous les ennemis, oui. Il y a des Amoréens. C'est des Amoréens. Vous pouvez nous parler à Chicoutimi des Amoréens. Ils ne vous intéressent pas, les Amoréens. Donc, vous pouvez vous faire toute une réunion sur les Amoréens. C'est très intéressant. Et vous verriez qu'en temps, Abraham était allié aux Amoréens. Tant que l'unité des Amoréens n'était pas parvenue à son comble, Abraham n'avait pas le droit de s'établir parmi les Amoréens. Il ne pouvait y être que comme un étranger. Mais un jour, Israël serait entré dans le pays des Amoréens et il ne serait plus permis d'avoir une association avec l'Amoréen. Ça, c'est une autre chose. Il y a eu un changement. On peut avoir eu certaines alliances avant notre conversion. Mais une fois qu'on a été libéré du joug de Satan, libéré du monde, de l'esprit du monde, eh bien, il y a des alliances qui cessent. Et qui doit tomber parce que ces alliances deviennent nos ennemis. Ça devient des pièges. Et le Seigneur voudrait que nous soyons délivrés de tous ces pièges. Alors, vous allez méditer vous-même. Il y a les Amoréens. Et après, il y a les Hétiens. Ben oui, on pourrait aussi parler des Hétiens. Abraham, au début, il a fait une affaire avec un fils de Hét. Si, quand je vais pas vous faire passer un examen, on n'est pas à une baleine au concours biblique. Mais, il y avait un homme qui s'appelait Ephron. Voilà que Abraham a une grande détresse. Ici, là. Sa femme est morte. C'est quand on doit passer par cette épreuve-là. Il n'y a pas seulement la mort qui est l'épreuve, mais il faut prendre des décisions. On ne peut pas garder le mort dans sa case. Il faut trouver un lieu pour l'ensevelir. Et voilà, on est étranger. J'ai connu quelqu'un qui a dit vivre cela, littéralement. Alors, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit un fils de haine, il a acheté le sépulcre. Il a acheté le sépulcre, la caverne de Machpéla, à Hébron, le fils de haine. Si vous pourriez continuer, le pays des Phérésiens des Cananéens, des Héviens, des Jébusiens, et je les exterminerai. Ça, c'est la première étude. Là, il est nommé six nations ennemies que le Seigneur va exterminer. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, c'est ce qui vous arrivera. Il bénira votre pain. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui encore? Si vous voulez résumer vos besoins matériels, le pain quotidien. Il bénira votre pain et vos eaux. Ce dont nous avons besoin pour vivre, pour entretenir cette vie de notre corps. Et non seulement il bénira votre pain et vos eaux, mais il y a une deuxième bénédiction. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà une autre bénédiction. Et nous pouvons aussi faire confiance au Seigneur. Il ne va pas toujours nous épargner de la maladie, mais au sein même de la maladie, il peut nous donner de grandes délivrances. Et aussi la guérison. Puis, il ajoute ensuite une troisième bénédiction. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de juifs. Nous allons nous arrêter là, sur ce que c'est. Il vous demande de vous relire, pour vous en imprégner, parce qu'ils vont servir en quelque sorte de toile de fond au sujet de nos messages. Et si vous trouvez ici six nations, je vous cite encore un verset dans Deutéronome au chapitre 7, où vous en trouvez sept de nations. Ailleurs, on peut même en trouver 10, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'ennemis. Mais je dis encore dans le chapitre 7 de Deutéronome, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Éthiens, les Girgadiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Je souligne ça dans le... Ce sont des nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne prêteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point pas. Et pourquoi c'est cela? Pour qu'elles ne deviennent pas un piège pour les enfants d'Israël. Mais, j'avais à cœur, oui, de vous parler de quatre grands ennemis du chrétien. Le premier, évidemment, c'est le diable. C'est Satan. L'ennemi du commencement, celui que Jésus a désigné comme étant l'auteur du mal. Dès le commencement, il pêche. Il est menteur et meurtrier. Vous avez cela dans Jean 8, verset 44. C'est l'ennemi, le tentateur d'Adam et d'Ève, celui qui a introduit par la convoitise le péché dans le cœur d'Adam et d'Ève. Mais c'est à Adam qui est attribué le premier péché, ce n'est pas à Ève. Aimez-vous de cela. Ça vous console, monsieur. Je n'ai jamais dit d'abord le péché d'Ève, il est parlé du péché d'Adam. Comme par un seul homme, pas une seule femme. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché d'Adam. Adam est responsable. C'est-à-dire qu'elle n'a pas suivi, parce qu'elle a été suivi. Et là, il n'avait pas de résister. Frères et sœurs, oui, nous parlerons de l'ennemi, Satan. Et ensuite, nous vous parlerons du monde, dont Satan, à cause de la faute d'Adam, est devenu le prince, le chef de ce monde. Et qui aurait dû être le roi de ce monde? C'était l'homme. Hein? Mais comme il a manqué le but, en séchant, et là, c'est Satan qui a usurpé le pouvoir et qui a fait de ce monde, créé par Dieu, beau et bon,
un lieu où toutes les tentations, où toutes les convoitises règnent, et où Satan emploie les convoitises du monde pour dominer même nos cœurs de chrétiens et nous faire retourner peut-être à ce que nous avions vomi. Il y a eu la conversion. Mais il ne faut pas seulement dire une espèce de demi-tour. Il faut qu'il y ait ce que notre frère a souligné, une nouvelle naissance. Il faut que nous ayons été redonnés d'en haut dans ce monde, mais comme n'étant plus du monde. N'étant plus du monde. Étant des étrangers et des voyageurs ici-bas, non pas parce qu'on a pris une certaine décision le soir dans une réunion d'évangélisation, mais parce que quand on a rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il nous a pris avec lui. Puis où est-ce qu'il est allé? À la croix. Et à la croix, qu'est-ce qui s'est produit? Il est mort. Et si vous acceptez que Jésus est mort pour vous, et que c'est parfaitement que vous avez la délivrance, vous-même, vous n'aurez la délivrance que par la mort dans sa... Mais il ne faut pas seulement dire une espèce de demi-tour. Il faut qu'il y ait ce que notre frère a souligné, une nouvelle naissance. Il faut que nous ayons été redonnés d'en haut dans ce monde, mais comme n'étant plus du monde. Étant plus du monde, étant des étrangers et des voyageurs ici-bas, non pas parce qu'on a pris une certaine décision un soir dans une réunion d'évangélisation, mais parce que quand on a rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il nous a pris avec lui. Où est-ce qu'il est allé? À la croix. Et à la croix, qu'est-ce qui s'est produit? Il est mort. Et si vous acceptez que Jésus est mort pour vous, et que c'est parfaitement que vous avez la délivrance, vous-même, vous n'aurez la délivrance que par la mort dans sa mort. Mais, étant entré dans sa mort, le Seigneur ne vous laisse pas dans la mort, puisqu'il est le prince de la vie. Quand il ressuscite, il ne ressuscite pas seul, vous êtes vivifié avec lui. Et, ayant trouvé la vie en lui, il vous entraîne où? Quand il est monté au ciel, vous avez été élevé avec lui. Juste parce que je dis que, je dis, excusez-moi, il dit, sa parole nous dit, que nous avons été enlevés avec lui, et nous a invités avec lui, et nous sommes spirituellement déjà, nous avons notre place en Dieu. Notre bourgeoisie, elle est où? Dans les cieux. Et nous avons notre place maintenant dans les lieux célestes, nous sommes assis en lui, dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De toutes les puissances spirituelles de méchanceté. De sorte que tout le combat, nous le menons de dessus le trône. Nous n'essayons pas de traverser les puissances. Pardon. Nous ne cherchons pas à traverser les puissances. On retombe. Menons le combat de Dieu. Soyez conscients que vous êtes conscients. Et qui est-ce qui va mener le combat? C'est le Dieu. Et c'est lui qui nous redonne à la terre, par cette nouvelle naissance, d'en haut, nous venons d'en haut, mais plus comme vous êtes nés de la terre. Comment est-ce que vous êtes nés de la terre? Avec votre petit brodé? Moi, je suis né de parents riches à la chute. Parmi au monde comme tout le monde, j'avais une petite chemise. J'entrais dans le monde aussi. C'est ça votre raison? Non. Vous savez bien, nul je suis entré. Vraiment, nul je suis sorti du sein de. Non, mais, plus je retourne au fond de la terre, le combat de la vie a été cramassé de jour. C'est ça le mot. Il n'a jamais été. Ça fait mal, ça. Mais mes bien-aimés, ce dont nous sommes persuadés, c'est que cette parole de Dieu va s'accomplir réellement. Il nous redonne à la terre dans la nouvelle naissance, mais quand nous sommes
si j'osais dire ainsi, parasité, redonner dans le baptême du Saint-Esprit, redonner à la terre, comment est-ce que nous arriverons dans la nouvelle naissance? Revêtus de toutes les âmes de Dieu. Et c'est bien ici que vous allez lire à ce moment-là. Un né de nouveau, et c'est vrai que les indicateurs le comprennent ici, quand c'est une véritable nouvelle naissance, oui, on est encore bébé en Christ, mais déjà, on a notre esprit. Sur mesure. Il y a déjà toutes les armes de Dieu pour celui qui est né de nouveau. Il a la vérité pour son fils. Il a la cuirasse de la justice. Il a les chaussures de la paix. Il a le bouclier de la foi pour éteindre les armes enflammées du malin. Il a le casque du salut pour protéger ses pensées. Il a les pieds d'esprit et la prière. Il n'est pas rendu nu dans ce monde, mais il vient dans son chef, son être, Père Seigneur. Prenez conscience. Alors, vous n'êtes pas dans ce monde entièrement démuni. Vous êtes équipé pour un témoignage dans ce monde. Certes, vous serez enfant de l'enfance spirituelle. Ensuite, vous passerez à l'adolescence spirituelle, puis à la maturité spirituelle. Mais vous n'aurez pas de vieillesse spirituelle. Ça vous encourage? Vous n'aurez pas de vieillesse spirituelle. Je ne devrais vous mettre dans le feu d'un. Et on peut encore avoir le cœur d'un. Pour quelle raison? Parce que qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? C'est la vie du. C'est la vie du Christ. Alors, Christ a été enfant, c'est vrai. Alors, il y a des bébés en Christ. Christ a été adolescent, c'est vrai. Et Christ a été homme fait. Mais quand il est mort dans la plénitude de sa force. Il ne nous a pas donné l'image de vieillir. Et ça, il n'y a pas de vieillir. C'est vrai. C'est la vie du Christ. C'est sa vie en vous. Alors, laissez cette vie grandir en vous. Laissez-le se développer en vous. Laissez l'esprit faire habiter le Christ en vous. Et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair, le troisième ennemi. Et on se rejoint avec mon bien-aimé frère, que je n'avais jamais rencontré. Et on n'avait pas eu l'occasion de se parler de ce sujet. Mais je suis certain qu'au cours de cette journée, le Seigneur va lier nos messages. Et n'écoutez pas les hommes, mais écoutez la parole de Dieu. Prenez cette parole au sérieux. Et souvenez-vous non pas de ce que l'un ou l'autre a pu dire, mais de ce que l'Esprit de Dieu vous rappelle par le livre qui vous a été lu. Et souvenez-vous toujours de cette personne qui apprend par le conducteur spirituel du lieu qu'il y a eu une conversion ce soir-là. Alors le prédicateur le lendemain demande de faire la connaissance de la nouvelle personne convertie. C'est quand même intéressant de savoir ça, au moins. Alors, le syndicateur patron qui dit, Père, sœur, qu'est-ce que j'ai dit qui a pu vous toucher dans l'écriture, qui a pu vous toucher dans ma histoire? Oh, monsieur, c'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez lu. Lu à des notes. Lu de la parole. Voilà qui nous remet dans notre place. Ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez lu. Et si vous lisez la parole comme vous devez la lire, comme Jérémie qui la mangeait, et si je vous dis ensuite qui la ruminait, si vous pouvez repasser cela, entrer en méditation, en horizon, et vous pénétrer de cette parole de Dieu, et bien, nous aurions ce triomphe aussi contre la chair. Vous n'êtes plus redevable à la chair pour vivre devant la chair. Vous n'êtes plus débiteur à la chair. Vous pouvez dire non à la chair. Pour quelle raison? Parce que c'est Jésus lui-même qui a mené le grand combat. C'est dans sa chair que mon péché a été expié. Il a revêtu un corps de chair semblable au péché pour que mon péché à moi, que j'ai commis dans la chair, soit jugé dans la chair de Jésus. Et c'est pourquoi la mort du Seigneur Jésus, et je demande à Dieu que nous ayons une heure seule demain matin, déjà c'est les heures de la nuit, où nous puissions saisir par le Saint-Esprit ce qu'il voudrait nous dire. toi au sujet de ton amour et de cette mort qui nous apporte la délivrance de la puissance de la mort. Car celui qui avait la puissance de la mort a été vaincu par la mort de Jésus. C'est par la mort que celui qui avait la puissance de la mort, Hébreux 2, a été vaincu. C'est par la mort que nos péchés ont été ôtés. C'est par la mort aussi que nous avons la délivrance de cet attrait du monde, de toutes ces voluptés du monde. Voilà un homme qui peut dire, pour le monde, je suis mort. Et le monde, il est mort. Voilà. Quelle victoire sur cet ennemi, sur le monde, sur cet ennemi, sur la terre, sur la mort. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et bien, que le Seigneur nous prépare et que, ensuite, nous puissions avancer dans la connaissance de celui qui est le vainqueur de tous nos ennemis. Et je voudrais vous dire, les ennemis du chrétien, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que nous sommes chrétiens? Alors méditez encore vous-même sur ce mot chrétien, combien de fois le trouve de toi dans le Nouveau Testament? Trois fois. Qu'est-ce qui a donné le nom de chrétien aux premiers croyants? Les croyants. Actes chapitre 11, c'est à Antioche pour la première fois qu'on a nommé les disciples de Jésus des chrétiens. Et qui étaient ces gens-là? C'était des gens qui avaient été évangélisés par les persécutés de Jérusalem. Des gens qui avaient tout perdu, qui avaient dû fuir leur patrie et qui leur avaient annoncé la bonne nouvelle. Ils avaient tout perdu, ils avaient encore une bonne nouvelle à annoncer. Vous voyez comme ils étaient des coqs, c'était demain. Mais ils avaient l'ange, ils avaient le Seigneur qui marchait devant eux. Même s'ils avaient dû abandonner leur patrie, c'était plus leur patrie, elle était où? Dans les cieux, notre bourgeoisie est dans les cieux. On peut me prendre ma place sur la terre, on ne prendra pas ma place. Alors, tu es plus. Même si je m'appellerai tu. Peux bien me laisser déraciner. Le vent souffle où il veut. L'essentiel, c'est pas de posséder le vent, c'est de se laisser venir. Pousser par le vent d'esprit, là où il voudra. C'est ça. Le vent souffle où il veut. Aller dans le monde. Pas dans le vent de ce monde. Mais dans le vent du Saint-Esprit. De cette puissance, elle. Ne vous illusionne pas. C'est vous-même, dans le monde, la puissance de ta chance, la terre, la mort, mais qui vous donne cette certitude que si nous allons jusqu'au bout avec lui, eh bien les quatre bénédictions que vous retrouvez dans cette chapitre 23, vous pouvez les avoir. Ce qui est nécessaire à votre alimentation, la nourriture est bonne. Ce qui est nécessaire à votre témoignage aussi, que la maladie s'éloigne de vous pour que vous puissiez, dans la santé aussi, avoir le témoignage. Les chrétiens en santé, c'est rendu malade. C'est un miracle. Parce que les chrétiens en santé, ils ont trop de tentations de toucher les malades. Parce qu'une fois qu'on est malade, il y a des choses qu'on peut plus faire. Tandis que quand on est en santé, quand on est encore avec nos jambes, on peut courir à des lieux où on ne devrait pas aller. Ces conditions, non pas de la chair, mais ces conditions spirituelles, le fruit de l'esprit sera manifesté dans votre vie. Vous n'aurez pas d'avortement. Et je voudrais bien comprendre que vous passez la médecine. C'est lui qui me réjouit du travail que Dieu fait. C'est la question au contraire. Il faut des vraies nouvelles naissances. Et il faut revenir à la parole de Dieu pour que ce travail profond qui amène d'abord la conviction de péché, qui appelle le péché péché. N'attendez pas que Jean-Paul II vienne vous dire que le péché, c'est le péché. Il va oser le dire au Québec. Je ne le demande pas. Mais c'est certainement ce qu'il demande. Très bien. Allez-y. Je vais vous donner tout ce que j'ai dit. Mais est-ce que ça touchera les cœurs? Parce qu'ils vont le vivre, ce que l'on prêche. Comprenez-vous? Ils vont le vivre. Il n'y aura pas d'avortement. Il n'y aura pas non plus. Il y a une fécondité. Mais la vraie fécondité, où je viens, non pas quelque chose qu'il pensait en le produit, pour faire une fécondité. Mais quelque chose de vrai. Quelque chose de pur. Quelque chose qui fait des hommes et des femmes qui sont des saints dans le monde.
C'est une personne dans l'Église qui de la vérité qui a été ressentie avant la fin de Dieu. À cause de quoi? À cause de Dieu.
Ils ne pouvaient plus être des témoins. Ils ne sont pas perdus. Mais en vie, avec ce qu'ils ont fait, Dieu ne pouvait plus les laisser subsister comme témoins. Il les a répondu. Alors je demande au Seigneur que nous puissions comprendre que nos bénédictions pour aller jusqu'à la fin de nos jours, je ne demande pas de vivre longtemps, mais c'est pas la mort.